Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, à l'antenne de l'Union rationaliste, d'accueillir en cette fin d'année 2009 Maurice Godelier. Maurice Godelier, bonjour.
Bonjour.
Pour rendre un double hommage à l'anthropologie, d'abord à Claude Lévi-Strauss, qui vient de s'éteindre le 30 octobre 2009 au terme d'une longue vie de recherche et de découverte fructueuse, que je souhaiterais évidemment évoquer avec vous, Maurice Godelier, qu'il avait côtoyé de près pendant une vingtaine d'années, puisque vous avez été assistant et maître assistant 20 ans dans son laboratoire. Et puis, évidemment, à vous-même, Maurice Godelier, qui êtes le plus célèbre des anthropologues français, mais qui êtes aussi internationalement reconnu et célébré en France comme à l'étranger. Je rappelle donc que vous avez reçu la médaille d'or en 2001 du CNRS pour l'ensemble de votre œuvre. Et nous, à l'Union rationaliste, nous aurons le plaisir de vous remettre en janvier 2010 le prix de l'Union rationaliste. J'ai d'ailleurs à mes côtés Guy Bruy, qui est un vieux militant de l'Union rationaliste, qui sera avec moi, très heureuse de participer à cette remise de prix. Alors la première question, très impertinente, que je voulais vous poser parce que je suis sûre qu'un hommage trop protocolaire vous agacerait et qui s'adresse donc à l'auteur de la production des grands hommes.
Oui.
C'est, que pensez-vous, vous, Maurice Godelier, des prix dans les sociétés occidentales? Faut-il rattacher le prix à tout le système de la reconnaissance sociale comme les décorations et les honneurs, ces hochets de la République, comme les appelait Napoléon lui-même qui les a instaurés? Ou bien faut-il entrer dans un système de différenciation un peu plus fin?
Non, je pense que ça fait partie en effet de... Non pas des hochets de la République, c'est un peu ridicule de dire ça, mais les prix scientifiques, ils célèbrent, comme on dit, une œuvre, mais en fait, une œuvre, elle n'est pas faite toute seule. Et la plupart de mes collègues, quand ils reçoivent un prix en physique ou en chimie, etc., ils disent, comme je l'ai dit quand j'ai reçu la médaille d'or du CNRS, que c'est à leur équipe qu'est adressée cette médaille. Il n'y en a qu'un qui la reçoit. C'est un peu comme le prix Nobel. Et un prix Nobel n'est pas nobilisable seul, mais c'est son équipe qui le porte ou qui l'entoure. Donc, soyons modestes. Je suis pour les prix, mais je ne veux pas que ce soit pour le gonflement de la narcissique de la personne. On a bossé, on a travaillé, les gens étaient contents de votre œuvre, ils s'en sont servis, ils ont trouvé ça utile pour analyser les problèmes, des réalités, et tant mieux, quoi. Tant mieux. Ça fait plaisir de recevoir un prix ou des prix, ça fait plaisir, ça montre qu'on ne travaille pas pour rien, quoi, que c'est quelque chose. Donc, vous voyez, je ne suis pas contre, je ne suis pas non plus à voir ça comme un hochet. Et en même temps, je ne voudrais pas que ça boucle l'individu sur lui-même, quoi.
Il y a une vraie différence de pratique, me semble-t-il, entre Claude Lévi-Strauss et vous. On pourrait dire brièvement que vous, Maurice Godelier, vous avez toujours été quelqu'un de très engagé politiquement. Vous avez été marxiste.
Oui.
Du marxisme, vous avez conservé le souci de la détermination économique et sociale.
Pas vraiment, mais je vous expliquerai.
Ouais. Bon, vous avez dirigé le laboratoire d'anthropologie des systèmes économiques.
Oui, enfin, si on peut dire, on a créé un moment un groupe de réflexion sur la place et le rôle de l'économie dans la production du social, la production de société. Donc, ça se réfère à ma jeunesse lorsque structuralisme et marxisme étaient, on peut dire, les deux modèles d'interprétation dominants, hein, et même écrasants à un certain moment. Je suis obligé de conclure à mon âge, à l'issue de quelques années de travail, que ni la parenté ni le mode de production, pour employer le vieux terme marxiste, ou tout simplement ni les rapports économiques, ne peuvent fabriquer une société avec son identité. Donc, j'ai beaucoup changé, vous voyez. Mm-hmm. Et on était parti, quand on était jeune, on partait avec l'idée que, par exemple, l'étude de l'économie, l'étude du rôle des individus non glorieux, hein, c'est-à-dire mm-hmm. ce qu'on appelait les classes, les masses et tout ça.
Mm-hmm. Le peuple.
Le peuple avait été négligé mm-hmm. pour l'histoire des dynasties et des hommes, des grands hommes, n'est-ce pas? Et on partait avec cette idée que si on comprenait la logique des rapports de production et de distribution des biens et des richesses, on comprendrait, on aurait une clé qui n'existait pas avant et qui nous ouvrirait la logique sociale. Donc on avait quand même cette formidable ambition et mm-hmm. peut-être prétention, ou ce rêve. Bon, ce rêve, si vous voulez, a explosé. On n'a pas trouvé des gens comme moi qui... Ben, je ne suis pas un plaisantin quand je travaille sur des modes de production et sur des rapports de parenté. J'ai essayé vraiment de mettre à l'épreuve cette hypothèse qui nous portait. Eh bien, je n'ai jamais trouvé ensuite, pendant 20 ou 30 ans, de relation directe, causale, et causale en dernière instance encore,
oui.
De l'économie, pour m'expliquer un système de parenté, et pour m'expliquer peut-être même, bien qu'on puisse par des relais complexes, voir des relations entre une action possible de l'homme sur la nature et sur lui-même, matériel et intellectuel, parce qu'on ne peut pas produire des biens ou produire des effets économiques sans avoir un élément intellectuel dans tout ça, n'est-ce pas, de savoir et de savoir-faire, mais de là à pouvoir expliquer d'un mode de production le dieu des Sumériens, ou le panthéon de 1600 dieux, le polythéisme mésopotamien, eh bien, il faut le faire. Hein. Ayant écrit un énorme livre, Métamorphose de la parenté, 30 ans après Lévi-Strauss, n'est-ce pas, reprenant mais les mêmes problèmes, et comparant à peu près 182 systèmes de parenté et de société, j'ai dû conclure que c'est pas la famille qui fait le fondement de la société, c'est pas les rapports de parenté. Donc j'ai bousculé une évidence célébrée par les anthropologues que dans les sociétés sans état et sans classe ou caste, c'est la parenté qui dominait. Non, ça ne fait pas une société, et les facteurs ou les rapports humains qui forment une société, qui traversent les groupes de parenté, qui les unissent à un autre niveau, ce sont des rapports politico-religieux. C'est un régime de pouvoir, et c'est un régime inventé par les hommes de rapport avec les esprits et les dieux, quoi. Avant la séparation de l'Église, enfin des religions et de l'État, qui est une formule moderne d'existence, n'est-ce pas, du politique, toutes les formules de pouvoir associées le religieux et l'autorité et le gouvernement, quoi, si vous voulez. Donc, première évidence que j'ai dû abandonner.
Mmh, à laquelle vous avez renoncé.
Oui, mais tout en disant aux gens, parce que c'était une incompréhension totale quand j'avançais cette idée, surtout étant anthropologue et spécialiste pendant longtemps de la parenté, que pour la formation de l'individu, de vous comme personne, de moi comme individu, quoi, on est dans une famille, on est dans des rapports de parenté, on est élevé là-dedans, on prend nos premières marques sociales et intimes. Mmh. Et donc, les rapports de parenté sont fondamentaux pour la constitution de la personne, de son identité, de sa fragilité personnelle ou de sa force, n'est-ce pas? Bon, mmh. Ça, tout ça, ça va de soi que... Mais ça ne vous explique pas la logique de l'Empire romain, quoi. Arrêtons de tout mélanger, quoi.
Vous avez embrassé dans votre parcours théorique des causes, le marxisme dans les années 70, la psychanalyse, etc. Et donc vous avez toujours dans votre œuvre, et moi je crois que c'est aussi son grand intérêt, vous vous êtes nourri à diverses sources.
Quoi. Oui, bah regardez, hein, moi j'étais ami et un ami, mais en même temps un admirateur de Vernant.
Oui, bien sûr.
Pour moi, Jean-Pierre Vernant, c'était le grand marxiste. Celui qui...
Pour nous aussi, à l'Union rationaliste,
oui, bien sûr. Le grand marxiste, parce que Il se serait jamais permis de faire comme Althusser ou comme d'autres qui l'ont suivi, ses disciples, de faire de la cavalerie intellectuelle et de faire des démonstrations des rapports entre économie et la notion de Dieu. Hein? Bon. Tandis que Vernant, c'était toujours une vision complexe des logiques sociales, le détachement de, par exemple, de, on peut dire, du nomos, de la loi,
oui,
parmi les égaux, n'est-ce pas, de la cité grecque, au moins celle d'Athènes, et le détachement de, disons, des positions d'autorité religieuse, donc la capacité. Bon, il nous montrait une complexité, un processus de, historique et sociologique qui donnait sens à ce qu'on avait appris à l'école sur, sur l'Antiquité classique.
Absolument.
Et tous les niveaux de la vie et de la complexité de la vie étaient prospectés, analysés. Mais il n'y a pas de réduction chez Vernant.
Absolument.
Seulement, il y a eu cette... si vous voulez, mai 68 a poussé, d'ailleurs, en partie malgré lui, Althusser à devenir le représentant international du marxisme nouveau à Paris, qui se faisait à Paris. Et c'était, je le dis maintenant rétrospectivement, parce que je n'ai jamais été althusserien, je vois que c'était une cata, quoi. C'était une catastrophe. Parce que c'est devant ce marxisme-là, ce rationalisme marxisme-là, que se sont ensuite dressés, par contre-coup, si vous voulez, des tas d'historiens qui sont devenus de plus en plus conservateurs, en fait.
Votre rationalisme à vous, Maurice Godelier, et ce sera le mot de la fin, la dernière question, il est beaucoup plus ouvert et moins dogmatique ?
Moi, je ne veux pas être dogmatique. Je veux comprendre la complexité de la vie des gens dans leur mode d'organisation commun. Je veux comprendre comment les gens produisent du sens pour leur existence et du sens qui est un sens partagé, c'est pas simplement un sens intime, un sens partagé qui fait une force sociale, leur sens, dans un environnement qu'ils interprètent, la nature autour d'eux, etc. Donc moi, je ne veux pas réduire. Et par ailleurs, au fur et à mesure que j'analyse, j'allais dire en profondeur, comme j'essaie de retrouver les articulations, j'ai des jouissances théorique formidable, parce que je vois se déplacer des problématiques, je vois des évidences célébrées qui meurent sous mes yeux, donc ça me fait plaisir, quoi, c'est mon boulot, quoi, je me sens, et c'est ça mon rationalisme, expliquer, faire comprendre et montrer à chaque fois comment des groupes humains produisent du sens pour eux-mêmes pendant un certain temps historique. Bien entendu, ça éclate, ça disparaît, ça se recompose autrement. Donc vous voyez, je suis, enfin, si vous voulez me positionner, c'est pas un mot que j'aime, mais j'aurais été jusqu'au bout un compagnon de travail, pas seulement de route, de Vernant. Vous voyez, c'était dans l'anthropologie, j'essayais de faire ce que Vernant avait fait pour la philosophie grecque et pour la compréhension d'Athènes et de Sparte, vous voyez, de tout cela, y compris le théâtre, le roman, le théâtre, n'est-ce pas, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est ça le rationalisme. Le rationalisme, c'est la capacité d'expliquer le sens que les gens donnent à leur existence, et en même temps, comme on comprend que c'est un processus humain, on a une distance critique, puisque de comprendre des autres ne fait pas qu'on s'identifie aux autres. Je ne vais pas faire nécessairement ce que font les autres dans mon existence, parce que j'ai compris la logique de leur action et de leur pensée. Je ne suis pas obligé de le faire. Donc la connaissance est quelque chose qui rapproche, mais qui ne force pas à s'identifier.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots, Maurice Godelier, que nous allons clore cet entretien.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie.
Et merci encore pour l'Union rationaliste de m'avoir attribué ce prix, ça me fait non seulement plaisir, mais c'est un honneur d'être rationaliste.
Eh bien, nous en sommes ravis. Merci infiniment, Maurice Godelier.
Merci bien, merci beaucoup.
Je laisse la parole à Guy Bruy pour nous présenter le dernier numéro de Raison Présente.
Oui, à propos de Raison Présente, je dois rappeler que Maurice Godelier a fait partie de l'équipe fondatrice de Raison Présente.
Absolument.
Dont le dernier numéro s'intitule « Lumière présente ». Et pour pasticher Victor Hugo, je dirais que le numéro de Raison Présente que nous proposons en cette fin d'année est plus qu'actuel, il est urgent. Qui oserait soutenir en effet que les débats idéologiques qui agitent l'opinion en ce début de XXIe siècle sont à la hauteur des grands débats autour de grandes idées qu'a connu ce XVIIIe siècle que nous nommons siècle des Lumières. Et pourtant, c'est bien d'une telle hauteur de vue dont nous avons aujourd'hui besoin. Nous avons voulu projeter dans ce numéro quelques éclairages sur ces lumières au-delà des clichés paresseux. Georges Benrecasa s'interroge sur le rapport entre liberté, libertinage et révolution. Riccardo Campi, partant des réflexions de Walter Benjamin sur l'histoire, montre quelle fut en son temps l'actualité de Voltaire et à quelles conditions il peut être aujourd'hui actuel. Ce siècle, qui conduisit à la proclamation de la République, fut aussi celui où Necker put soutenir un antirépublicanisme fondé en raison. C'est ce qu'étudie Jean-Fabien Spitz. Grand siècle du développement des sciences aussi, avec la grande figure de Fontenelle, véritable organisateur de la recherche, présentée par Michel Blais, et celle, encore méconnue sans doute, de Lamétrie, dont Bernard Graber nous offre un portrait vigoureux. François Pépin expose la problématique d'une épistémologie expérimentale, expression qui à elle seule devrait susciter la curiosité. La nature dont nous causons tant est présente dans une étude de Catherine Larère qui aborde la question des rapports de celle-ci avec la science. Enfin, année Darwin oblige, Gerhard Stenger esquisse un rapprochement qui pourra surprendre entre Voltaire et Darwin. Ce riche ensemble, coordonné par Jean-Patrice Courtois et Martin Rueff, peut être commandé au prix de 13,50 € à l'Union Rationaliste, 14 rue de l'École Polytechnique, Paris 5e. Pour toute information sur les activités de l'Union Rationaliste et sur les cahiers rationalistes dont le numéro dernier vient de sortir, vous pouvez consulter le site de l'Union Rationaliste. Merci.
Merci Brigitte Mazire qui a rendu possible cette émission.